France Culture.
Et c'est reparti pour les midis. Tout à l'heure à 13h, je recevrai le chanteur-compositeur Pierre Lapointe. Il sort un nouvel album au titre éloquent, 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Depuis quelques années, nous assistons à une révolution des métiers de l'humour. Dans un article de Libération, on apprend que les humoristes sont plus que jamais dépendants des réseaux sociaux et notamment d'Instagram pour se faire connaître et pour remplir la salle. Le stand-up hexagonal du virtuel au réel, c'est le dossier du point culture du jour. Mathieu Letourneux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris-Nanterre, vous avez co-signé une somme aux éditions du CNRS « L'Empire du Rire, 19e-21e siècle ». Constatez-vous, vous, un changement structurel dans le métier d'humoriste aujourd'hui, notamment dans leur rapport à la scène? Est-ce que, par exemple, vous pensez que la scène est moins sacrée qu'avant?
Alors, la scène reste un élément absolument fondamental de la culture du rire, avec des nouveaux formats qui sont en particulier ceux du Comedy Club, des formats courts qui sont des formats importés des États-Unis, mais elle s'associe avec d'autres éléments qui sont des éléments liés à Internet et aux réseaux sociaux qui, eux, transforment considérablement tout à la fois la logique de l'humour et le rapport au à la scène.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire justement en quoi ces réseaux sociaux métamorphosent ce métier d'humoriste aujourd'hui ?
Alors, il faut savoir plus généralement que les réseaux sociaux métamorphosent à peu près la moitié de la culture contemporaine. Mais dans le domaine du stand-up et des comiques, d'abord, il faut dire que depuis YouTube, il y a eu quand même beaucoup de transformations de l'univers du rire, hein, des humoristes. Il y a eu d'abord les YouTubeurs, et là, on est dans une nouvelle génération, une génération qui est plus liée à Instagram en particulier, et qui est une génération qui articule de manière très étroite la logique du stand-up. Ce sont des stand-uppers souvent qui sont sur Instagram, et la logique de la pastille Instagram, relativement brève, hein, entre 30 secondes et 1 minute, qui propose des petits extraits de stand-up, parfois des sketchs faits pour Instagram, mais souvent des petits extraits de stand-up qui transforment finalement le rapport des humoristes au public, qui transforment la structure du rire, hein, la structure des sketchs, enfin, c'est pas toujours des sketchs, mais des effets humoristiques, en situant l'effet humoristique à la fois dans une économie du stand-up et dans une économie de la pastille Instagram.
Mais qu'est-ce que l'image ajoute ? Parce que le fait, évidemment, de communiquer sur son ethos d'humoriste via des vidéos, est-ce que ça change la façon d'écrire sa vanne, par exemple ?
Alors, ça change plusieurs choses. Ça change la façon d'écrire la vanne. Il faut comprendre que la culture des humoristes est une culture qui est liée au mode de diffusion. Depuis le 19e siècle, depuis le café-théâtre du 19e siècle, on obéit à une structure. Le sketch, il s'est développé, par exemple, au 20e siècle, avec le rythme, avec la durée, le format de la chanson, en fait. C'est des durées similaires parce que ça se classe de la même façon, ça s'est longtemps distribué en 45 tours, etc. Et ben, de la même façon, la bascule sur Instagram, elle impose les formats d'Instagram qui sont des formats beaucoup plus courts et par ailleurs beaucoup plus montés, parce qu'il y a beaucoup de montage dans ces réalisations, parce qu'il faut que ça aille très très vite. Et donc, ce sont des formats qui sont liés, en quelque sorte, à la rapidité du visionnage sur Instagram. Et c'est des formats beaucoup plus catchy, c'est-à-dire qui accrochent beaucoup plus le public, qui vont beaucoup plus vite. Et alors, ça favorise en contre-coup certains aspects du stand-up. C'est-à-dire qu'il y a un mariage puissant entre le stand-up et Instagram. Pourquoi ? Parce que le stand-up, c'est une logique d'accrochage du public. Vous savez, on vanne le public à tour de rôle sur les vêtements, l'origine de la personne, son âge, parfois son nom, on demande le nom, etc. Et ça repose beaucoup sur l'interaction. Or, Instagram, ça repose sur des effets d'interaction. Alors, des effets, parce que en réalité, il n'y a pas d'interaction, mais des effets d'interaction, des effets de relation, de retweet. Et donc, ça se marie très bien avec la structure du stand-up, mais en concentrant sur quelques effets très rapides, très brefs.
Mais en termes de chronologie, ces capsules sur Instagram, elles arrivent avant le spectacle, pendant, après ? Est-ce qu'on vient voir un humoriste sur scène parce qu'on a vu sa capsule ou inversement, comment ça se passe ?
Ah ben c'est un effet rétroactif. En fait, ce sont des captures qui sont faites lors de spectacles, en particulier dans les comedy clubs, parce que les comedy clubs, vous savez, on est très près du public, il y a beaucoup d'interactions. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces capsules mettent en avant les interactions. C'est vraiment ça qui est vendu. C'est-à-dire, c'est vraiment l'esprit stand-up. C'est plus l'esprit du sketch, hein, vous savez, le sketch des années 90 où la personne joue un rôle et interagit finalement assez peu à son public. C'est même pas non plus les fausses interactions des grandes stars de la comédie qui, de temps en temps, s'adressent au public en masse en disant « je vous aime » ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment de l'interaction directe d'une personne avec une personne, avec des humoristes qui ont souvent des routines. C'est-à-dire, il y en a qui demandent à différentes personnes quel est leur métier, il y en a qui demandent quel est leur nom, il y en a qui demandent quel est leur métissage. C'est des sortes de trucs qui sont répétés parce que ça produit des interactions très faciles pour produire un effet de vanne. Et donc, ce sont ces effets de vanne qui sont donnés. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ce qui est mis en valeur, c'est en fait... Sur Instagram, ce qui est mis en valeur, c'est au contraire le contact réel, le contact de l'humour. Donc, ce qui est vendu, c'est précisément des spectacles de la relation. Ça, c'est très, très intéressant parce que les réseaux sociaux sont des réseaux de relations, mais des réseaux de relations virtuelles. Et ici, il y a comme un effet complémentaire entre la relation réelle du spectacle de stand-up, mais qui est quand même relativement rare. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'aller en comedy club. Enfin, c'est pas tous les jours. Et ces relations sur les réseaux sociaux. Et là, il y a une vraie chimie très, très puissante, à mon avis, qui est faite autour de la question de la relation. Ce qui est, il faut le rappeler, la question de la relation, c'est la question centrale du rire. C'est vraiment le point central pour comprendre ça.
Mais est-ce qu'une salle, aujourd'hui, a encore un effet prescriptif ? Est-ce qu'un programmateur peut découvrir un stand-upper ou est-ce que tout se passe sur les réseaux sociaux ?
Alors, d'abord, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que dans le développement du rire de stand-up sur Instagram, il y a des acteurs absolument capitaux, ce sont les comedy clubs. Il y a des comedy clubs qui ont 250 000 followers. Le Panam Art Café, il a 250 000 followers. Le Fridge Comedy Club, il a plus de 50 000 followers. C'est considérable. Et eux distribuent toute une série de jeunes stand-uppers qui ont 30 000, parfois un peu moins de followers, mais qui ont déjà une communauté importante. Donc, il y a une interaction. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les comedy clubs, ce sont à la fois des salles désormais et des comptes Instagram majeurs que les gens suivent. Donc, en fait, on est vraiment face à un univers où il y a une articulation très forte entre la virtualisation et la matérialité du rire.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Le Tourneux.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une petite révolution est en marche pour les audiences audiovisuelles.
Médiamétrie, l'organisme en charge de mesurer les audiences en France, a annoncé vouloir publier à partir de juillet les chiffres des trois principales plateformes de streaming, Netflix, Disney+, et Prime Video. Des discussions sont en cours avec les géants américains pour qu'ils rendent enfin publics leurs audiences, ce que demandent depuis longtemps les acteurs de l'audiovisuel français. En parallèle, Médiamétrie vient de sortir une étude sur le temps passé devant les écrans. On y apprend que les Français regardent en moyenne 4h16 de vidéos par jour, dont près de 70% via la télévision ou en replay, 20% sur Internet et près de 10% via la vidéo à la demande.
Près de 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, les musiciens russes peinent à faire leur retour sur les scènes françaises.
De nombreux artistes ayant apporté publiquement leur soutien à Vladimir Poutine n'ont plus été invités à se produire dans les pays occidentaux. Le grand chef d'orchestre gréco-russe Theodor Kurentis, qui dirige actuellement à Garnier un Castor et Pollux, est un cas d'école. Il a souvent été la cible en Europe de cette censure. Certains lui reprochant son soutien à la Banque de Russie, d'autres son comportement partisan. Pour pallier ces annulations, le chef a créé son orchestre et son label. Une quête d'indépendance qui fait écho à la situation de nombreux artistes russes depuis le début de la guerre. En parallèle, comme le révèle le Figaro, beaucoup de musiciens, chefs d'orchestre ou chanteurs qui, eux, ont fui la Russie, font toujours face à des annulations de concerts ou voient leur participation à des concours remises en question.
L'Institut national de recherche archéologique préventive vient de mettre au jour une maison vieille de plus de 7000 ans dans le Var.
Oui, une maison en ruine vient d'être découverte à Cavalaire-sur-Mer dans le cadre de fouilles réalisées avant la construction d'un parking. D'une longueur de 7 mètres sur 5, cette habitation a été construite avec un mélange de terre, de cailloux et de morceaux de céramique. Il s'agit de la plus ancienne maison datant du néolithique découverte à ce jour en Provence. L'INRAP doit continuer les fouilles sur ce site jusqu'à la fin du mois de février.
Et pour finir, Marie, les nuits de la culture reviennent à partir de demain.
De la lecture. Bah, on est toujours sur culture. France Culture, les nuits de la lecture. Bah, justement, cet événement est créé en 2017 par le ministère de la Culture et le Centre National du Livre. Il se tiendra cette année du 23 au 26 janvier. Pour cette 9e édition, le thème retenu est celui du patrimoine, qu'il soit familial ou collectif, physique ou immatériel, avec comme parrain et marraine Stéphane Bern et Maëlys de Kerangal. Ces nuits de la lecture proposent près de 8000 événements dans des bibliothèques, librairies ou musées sur l'ensemble du territoire et dans les territoires ultramarins. Les festivités débutent demain à la Cité de l'Architecture à Paris, avec notamment les performances de 5 poètes du serveur vocal poétique. Le programme est bien sûr à retrouver sur la page du Point Culture.
Du Point Culture. Voilà, merci Marie, puis on se retrouve pour un Point Culture.
Demain.
Il est 13h et vous êtes sur France Culture.